et est rassuré. Sagittaire, vous prenez des décisions importantes. Ce qui se passera aujourd'hui marquera la tendance du prochain cycle. Capricorne, la passion est au rendez-vous. Regardez bien autour de vous, certaines personnes gagnent à être connues. Verseau, vous suscitez de l'embarras par vos questions trop directes au goût de certaines personnes proches de vous. Poisson, vous voici doté d'une vue d'ensemble plus claire sur votre activité. Vous gérez mieux vos priorités. La confiance revient dans le cercle familial.
Eh bien, ça ne pourra pas nous faire de mal. Merci beaucoup, Bénédicte. Allez, bienvenue sur Sud Radio. Bon réveil, bon samedi matin. En plus, il fait beau. Profitez-en, il est 8h.
Parlons vrai.
Le journal avec Léo Ardourel. Bonjour Léo.
Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Un concours sous haute tension. La finale de l'Eurovision ce soir pourrait être marquée par des manifestations pro-palestiniennes alors que la participation de la candidate israélienne crée la polémique en pleine guerre à Gaza. La sécurité a été renforcée. Manifestation également aujourd'hui en France. Un collectif appelle à se mobiliser dans le Puy-de-Dôme contre un projet de méga-bassine. Entre 2 et 3 000 personnes sont attendues. Et puis on parlera foot aussi. Brest a été tenu en échec par Reims un partout hier soir en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Les Bretons ne sont toujours pas assurés de jouer la Ligue des Champions. L'Eurovision, c'est ce soir en Suède. 26 pays vont s'affronter pour la grande finale du concours européen de la chanson. Et si en France, tous les espoirs reposent sur les épaules de Slimane, cette 68e édition n'échappe pas à la polémique. Des manifestations se sont déroulées cette semaine, et ce pour dénoncer la participation de la candidate israélienne au moment où l'État hébreu bombarde Gaza et sa population, Baptiste Berthelin.
Oui, les manifestants reprochent aux organisateurs de ne pas avoir exclu Israël, comme ce fut le cas pour la Russie quand elle a attaqué l'Ukraine. Des milliers de personnes se sont retrouvées cette semaine dans les rues de Malmö et de nouveaux appels à manifester ont été lancés pour aujourd'hui. Les organisateurs redoutent que des militants réussissent à infiltrer la salle où la sécurité a été fortement renforcée, tout comme autour de la candidate israélienne Eden Golan qui a reçu des menaces sur les réseaux sociaux. La jeune femme de 20 ans défend les couleurs d'Israël avec sa chanson Hurricane, dont la version initiale avait dû être modifiée car elle faisait trop allusion à l'attaque du Hamas le 7 octobre.
Et son passage sera particulièrement scruté ce soir alors que les bookmakers la placent parmi les favoris. La France, de son côté, juge inacceptable les pressions sur l'artiste. La politique n'a pas sa place à l'Eurovision, a estimé hier le ministre français chargé de l'Europe, Jean-Noël Barrot, qui s'est exprimé dans un entretien à Libération. La France qui appelle par ailleurs Israël à rouvrir immédiatement le point de passage de Rafah vers l'Égypte. Dans un communiqué publié hier soir, le Quai d'Orsay estime que cette réouverture est indispensable tant pour l'accès de l'aide humanitaire à la population civile que pour permettre aux personnes les plus vulnérables de quitter la bande de Gaza. Un pari qui appelle également à reprendre les négociations en vue d'un cessez-le-feu. Pendant ce temps, des combats intenses sont en cours en Ukraine. Sur toute la ligne de front, les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que la Russie a lancé une offensive terrestre hier dans la région de Kharkiv. L'armée russe a tenté de percer les lignes de défense, selon le ministre de la Défense ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui précise que l'Ukraine envoie des renforts dans la région et qu'elle répond à cette attaque avec de l'artillerie et des drones. Une randonnée contre un projet de méga-bassine. Dans le Puy-de-Dôme, le collectif Bassine Non Merci appelle les opposants à se retrouver à 9h30 ce matin à la gare de Vertaison. Une mobilisation près de Clermont-Ferrand pour dénoncer la création de 2 réserves d'eau artificielle que le collectif qualifie même de giga-bassines, comme l'explique Adèle, membre d'Extinction Rébellion.
On a commencé à utiliser ce terme parce que ce sont vraiment des projets qui sont assez monumentaux. Là, on parle de méga-bassines de 14 et 18 hectares, donc c'est vraiment des projets qui sont difficiles à se représenter, mais donc qui représenteraient 2,3 millions de mètres cubes d'eau pompée par an et pour irriguer 800 hectares dans la plaine de la Limagne. Vraiment une idée reçue sur les méga-bassines de manière générale. C'est vraiment pas de l'eau de pluie qui ruisselle. Le principe des méga-bassines, c'est vraiment de pomper soit dans les nappes, soit dans les cours d'eau. Et là, en l'occurrence, ce serait pomper dans l'Allier.
Le collectif Bassine Non Merci s'inquiète des effets de ces bassines sur la faune et la flore. Des études d'impact sont en cours. On passe au foot avec la 33e journée et avant-dernière de Ligue 1. Brest et Reims ont fait match nul hier soir, un but partout. Les Bretons qui restent donc sous la menace de Lille dans la lutte pour le podium et à une éventuelle qualification pour la Ligue des Champions. Écoutez la réaction de l'attaquant brestois Jérémy Ledouaron, il était au micro d'Amazon Prime.
Ouais, c'est une déception, on voulait 3 points ce soir pour distancer Lille. Après voilà, il manquait ce petit truc, même si je pense dans l'ensemble du match on mérite mieux. voilà, on va regarder patiemment le match de Lille dimanche. Et voilà, il y a un dernier match à Toulouse la semaine prochaine et pour aller gagner. On a peut-être un peu moins de réussite offensivement. Mais voilà, on est toujours dans la course, on a de l'avance. Et voilà, le destin est entre nos pieds, j'ai envie de dire. Donc à nous de faire le maximum et aller gagner la semaine prochaine.
De son côté, Nice l'a emporté hier soir 1-0 sur le Havre. Les Aiglons qui s'assurent d'une place dans le top 6 et qui joueront donc une compétition européenne la saison prochaine. Pas de rencontre ce samedi, tous les autres matchs de la 33e journée se joueront demain soir. Et on suivra notamment PSG contre Toulouse. Ce sera le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes sous les couleurs parisiennes. Et hier, le joueur a publié une vidéo sur ses réseaux pour officialiser son départ du club de la capitale. Il n'a pas précisé sa destination, même si tout laisse à penser qu'il devrait rejoindre le Real Madrid. Voilà pour ce point sur l'info. Très bon début de journée sur Sud Radio.
Merci à vous Léo Ardourel et on ne manquera pas de suivre ce feuilleton évidemment avec plaisir et avec vous, pourquoi pas, sur Sud Radio.
La météo Sud Radio.
Rémi André, c'est bizarre, c'est un saint de glace aujourd'hui, c'est la Saint-Mamère en théorie et pourtant il ne va pas geler en France. Hein.
Ah mais ça ne veut pas dire qu'effectivement chaque année les saints de glace nous amènent plus chaud.
On maintenant. Nous aurait menti.
Ben oui, effectivement, on vous a pas menti, mais en fait, vous savez, on a aussi un changement climatique qui est en route et qui modifie un petit peu les choses et même les dictons. Quoi qu'il en soit, eh bien, avec les saints de glace, nous nous retrouvons avec un ciel plutôt estival aujourd'hui, avec du soleil partout et des températures qui grimpent et qui continuent de grimper encore aujourd'hui, puisque on pourrait dépasser les 30 degrés dans le sud-ouest, températures qui atteindront facilement les 27 degrés à Brest, à Clermont-Ferrand, toujours 27 degrés à Limoges, ainsi qu'à Toulouse, 27 degrés à Nantes, vous voyez, on va tourner autour de 25-27 degrés. Alors évidemment, du côté de Cherbourg, il ne fera que 21 degrés, mais c'est déjà pas mal. Et puis dans le sud-ouest, je vous disais, on pourrait dépasser les 30 degrés. Mais là, attention, car dans la soirée, des orages vont se former depuis l'océan et les Pyrénées pour le sud de l'Aquitaine.
Merci beaucoup Rémi André. Question subsidiaire, elle est importante quand même. Et c'est pour les jardiniers qui nous écoutent sur Sud Radio. S'il fait beau pour un saint de glace, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de risque de gelée nocturne?
Alors pour l'instant et pour les 3 semaines à venir, a priori, nous n'avons pas de gel de prévu, même si la semaine prochaine, nous avons des températures qui vont évidemment baisser très nettement par rapport à aujourd'hui, étant donné que la semaine prochaine risque d'être encore une semaine assez perturbée.
Ça c'est bien Rémi André, quand vous mouillez à défaut de vous geler. Merci beaucoup et à bientôt. Les pronostics hippiques de Sud Radio, c'est avec Jean-Paul Delperrier qui nous emmène ce samedi du côté de Caen pour nous conseiller de jouer le 13, le 16, le 15, le 2, le 11, le 8, le 9 et le 14. Écoutez bien, prenez vos notes parce qu'en général, ils sont bons ces pronostics hippiques sur Sud Radio. Je répète donc, le 13, le 16, le 15, le 2, le 11, le 8, le 9 et le 14. Des pronostics hippiques que vous retrouvez comme tous les jours sur sudradio.fr.
Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry.
Soyez tous les bienvenus sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h. On est ravis de vous accompagner jusqu'à 10h en ce long et beau week-end sur l'ensemble de la France. Soyez prudents sur la route si vous rentrez de ce long week-end. Bison futé, voie orange un peu sur l'ensemble du pays. C'est le début timide des retours. Si vous en profitez encore, n'hésitez pas, il fait beau. Et c'est quand même une journée magnifique qui s'annonce sur l'ensemble du pays. À suivre sur Sud Radio, l'actualité internationale et elle est dramatique. Du côté de la bande de Gaza, plus précisément au sud de cette bande de Gaza, à Rafah, où des centaines de milliers de réfugiés gazaouis sont massés, une offensive israélienne a été lancée. Question que nous poserons à notre invité et question purement militaire. Quel est l'intérêt militaire de cette offensive qui risque de faire beaucoup de victimes parmi les civils? On en parlera dans quelques minutes sur Sud Radio. Mais avant ça, on parle de nos aînés. Avec cette autre question que nous vous posons ce matin sur le Twitter de Sud Radio, sur YouTube également. En cas de dépendance, où préféreriez-vous vivre demain? Est-ce que ce serait plutôt chez vous, à votre domicile, mais avec de l'aide? Est-ce que ce serait en EHPAD ou est-ce que ce serait chez vos enfants? Eh bien, vous dites à plus de 80% que vous souhaiteriez vivre à domicile chez vous, mais avec de l'aide. Pourquoi pas une auxiliaire de vie ou un auxiliaire de vie? Ensuite, en minorité, un peu moins de 10% chez vos enfants, très peu dans un EHPAD. Ça s'explique notamment par les récents scandales. On en parle avec notre invité qu'on accueille avec plaisir sur Sud Radio, Laurence Deleur. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que je vais bien prononcer votre nom? Deleur? Deleur?
De l'heure, tout
Allez,
à fait.
Comme ça, on sera bon et ce sera vérifié. Vous êtes la co-réalisatrice de ce documentaire, Hold Up sur les vieux. Je dis co-réalisatrice avec votre consoeur Nathalie Amsalem. Ce documentaire, Hold Up sur les vieux, sera diffusé mardi prochain à 20h55 sur la chaîne Arte. Alors, c'est un tour d'horizon européen que vous nous proposez. Vous êtes allé dans 5 pays voir comment on s'occupait de nos aînés. Et la première réponse que vous voyez à peu près partout, c'est que le secteur public ne s'en occupe plus ou n'a plus les moyens de s'en occuper réellement. Et de plus en plus, c'est privatisé. Concrètement, ça, c'est le point commun entre les 5 pays.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même certaines EHPAD publiques, etc. Mais il y en a de moins en moins. Un exemple, en Espagne, le secteur est privatisé à quasiment 90%.
Voilà.
Donc c'est assez...
C'est une tendance lourde que vous, en plus, vous dénoncez. Ça se confirme également du côté de l'Angleterre, où la privatisation du National Health Service a commencé très fort dès les années 80 sous Margaret Thatcher. Alors, question, après tout, on pourrait se dire, pourquoi pas, le privé, c'est plus efficace que le public. Ça fait partie des idées reçues qu'on pourrait avoir. Est-ce que vous, c'est la première réponse que vous voyez sur le terrain?
Non, c'est effectivement ce que les politiques se sont dit dans les années 80 en France notamment. Les EHPAD à construire, ça coûte cher à entretenir, et donc on va confier ça au privé qui va faire ça mieux que nous et à moindre coût. C'est pas franchement ce qu'on a observé sur le terrain, puisque les entreprises, elles sont là pour faire de l'argent.
C'est leur travail, c'est leur raison d'être.
Mais la personne âgée, ça coûte de l'argent de bien s'en occuper. Et donc ce qu'on a pu observer effectivement en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne, c'est qu'on rogne sur les coûts, on rogne sur l'accompagnement, le nombre de personnes qui vont s'occuper de ces personnes âgées. Et donc, voilà, c'est pas toujours une prise en charge de qualité.
On assiste aussi à une diversification des modèles de prise en charge. Vous voyez, on posait cette question à nos auditeurs, est-ce que vous êtes plutôt EHPAD, plutôt maintien à domicile, mais avec de l'aide, ou alors en famille? Parlons d'une nouvelle pratique qui est presque calmement en poupe en France. Ça s'appelle l'habitat partagé. C'est poussé notamment par le groupe Clariane. On est presque sur une explosion du nombre d'ouvertures de structures qui font de l'habitat partagé. Question toute bête d'abord, c'est quoi la différence entre un EHPAD, donc une bonne vieille maison de retraite, on va le dire comme ça, et de l'habitat partagé?
Alors, la grosse différence, c'est que l'EHPAD, c'est médicalisé. Donc vous avez des infirmières, vous avez un médecin qui passe. Les habitats partagés, ça n'est pas une structure médicalisée. Vous avez des aides à domicile.
C'est comme si vous étiez chez vous, quoi.
Voilà, c'est un petit peu... Effectivement, c'est comme ça qu'est vendu l'habitat partagé. C'est que c'est comme à la maison, avec un accompagnement pour vous aider éventuellement à la toilette, à l'habillage, ce genre de choses si vous n'êtes pas autonome. Et dans ces habitats partagés, ces aides à domicile font aussi la préparation du repas, vous lavent votre linge, font le ménage, etc.
En d'autres termes, c'est le regroupement de plusieurs personnes âgées dépendantes dans le même bâtiment, mais à une petite échelle, quoi, 6 ou 8, avec la visite et les mêmes services, en quelque sorte, c'est ça.
Elles sont pas toutes dépendantes. Il y en a certaines qui sont autonomes, mais c'est surtout pour lutter contre la solitude, et ça répond à un réel besoin et une réelle envie de ces personnes qui sont parfois encore très autonomes, parce que maintenant on a une espérance de vie très longue. Moi, j'ai rencontré des dames de 90 ans qui étaient en parfaite santé, qui en paraissaient 75, mais simplement ces gens-là souffrent beaucoup de la solitude. Ça, c'est quelque chose qui s'exprime beaucoup.
Ce qui est d'autant plus grave que la solitude, elle entraîne un déclin cognitif progressif, c'est-à-dire que moins on a d'interaction avec les autres, plus on risque aussi de voir ses facultés décliner. Donc c'est très important. Cet habitat partagé, poussé notamment par le groupe Clariane, donc privé, ça devrait pas vous plaire, si j'ai bien compris. Ça marche ou ça marche pas?
Alors, moi, je suis pas là pour donner mon opinion sur ces structures. J'observe en tant que journaliste ce qui s'y passe. Alors, ça a le vent en poupe et ça se développe. Ça s'est développé de manière exponentielle, justement depuis le rachat par Korian. Maintenant, ça s'appelle Clariane, mais à l'époque c'était Korian, en fin 2017, début 2018. Et donc, au lieu de quelques colocations par an, ils ont énormément grossi. Ils ont construit plusieurs dizaines, si vous voulez, de colocations chaque année. Voilà.
Et est-ce qu'on insiste à, une contrainte sur les coûts, une pression sur les coûts, comme ce que vous craigniez de voir un peu partout en Europe, ou pas dans ce domaine-là?
Alors, ce qui est flagrant, c'est le manque de personnel et le manque de formation du personnel. C'est ce qui revient du terrain
De l'enquête de terrain que vous avez menée.
observer et dont on parle également donc dans une enquête que j'ai menée pour la revue 21 qui est diffusée, qui est publiée aujourd'hui. Après, ce qui se passe aussi, les départements sont réticents pour d'autres raisons et notamment le coût, le reste à charge en fait qui incombe aux familles. Clariane et AGV communiquent sur un reste à charge de 1850 euros actuellement, mais les familles, les départements,
1850 euros
de reste à charge une fois les aides déduites par mois
pour la famille de la personne dépendante
ou la personne qui paye elle-même effectivement.
Et c'est quand même considérable et ça c'est important, c'est le coût. C'est un point commun d'ailleurs qu'on peut voir dans tous les pays que vous avez sillonnés en Europe. C'est quoi qu'il en soit, aider les personnes âgées, les prendre en charge, ça coûte cher, que ce soit de l'argent public ou de l'argent privé. J'aimerais qu'on traverse le Rhin à toute vitesse pour aller en Allemagne parce que c'est un phénomène que vous avez observé. En Allemagne, on plébiscite non pas l'EHPAD, mais le maintien à domicile, avec donc un besoin pour les personnes dépendantes d'auxiliaires de vie. Il se trouve que massivement, ces auxiliaires de vie, elles ne sont pas allemandes en fait, elles sont étrangères, elles sont d'Europe de l'Est. Est-ce que c'est un problème ou pas ?
Alors, si ce système s'est mis en place, c'est parce que les familles ont ce fantasme d'une personne qui va pouvoir être là 24 heures sur 24. Les EHPAD coûtent cher, ils ont mauvaise image, comme dans beaucoup d'autres pays. Et donc, il y a des agences, des intermédiaires qui se créent, à la fois côté allemand et côté pays d'Europe de l'Est.
Et on recrute dans les pays d'Europe de l'Est, en Roumanie par exemple, en Pologne et ailleurs, des auxiliaires de vie qui vont s'occuper des personnes âgées dépendantes en Allemagne. Population encore plus vieillissante d'ailleurs, l'Allemagne, que la population française. Donc problème structurel massif. Comment ça se passe ?
Alors, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là sont employées dans des conditions très opaques, en fait, et travaillent... Là, on a le témoignage d'une dame qui nous dit qu'elle travaille 16 heures par jour, payée 1000 euros. Elles n'ont pas forcément de formation non plus, et on vend aux familles une personne qui a une formation, et puis en fait, à l'arrivée, la dame, elle n'a aucune formation.
Elle apprend sur le tas.
Voilà, c'est ça.
C'est terrible à dire.
C'est ça. Et à l'inverse, on vend à ces aides à domicile qu'elles vont s'occuper d'une personne qui est en bonne santé et quand elle arrive, la personne est en train de mourir quasiment. C'est un autre témoignage qu'on a pu recueillir. Donc, ces agences font de l'argent en tant qu'intermédiaires, mais il n'y a pas toujours un service à la clé. Et puis, ces dames sont un peu exploitées. C'est ce qui ressort d'un rapport du CESE, le Comité économique et social européen de 2018.
1000 euros par mois, 16 heures de travail par jour dans le pays le plus riche d'Europe. Effectivement, oui, ça ressemble quand même à de l'exploitation et aussi ça pourrait entraîner de la maltraitance parce que si vous n'êtes pas formé à accompagner une personne âgée dépendante, vous attendez à voir quelqu'un en forme et en fait c'est quelqu'un qui est malheureusement mourant, mais vous la traitez mal, quelles que soient vos intentions. C'est un point commun que vous avez pu observer entre l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Espagne, le Danemark ?
Oui, tout à fait. C'est pas forcément de la maltraitance au sens où on veut la commettre.
Du sadisme, ça peut être de l'incompétence qui a des conséquences dramatiques.
C'est ça, effectivement.
Et ça vous le voyez dans les 5 pays que vous avez vus.
Oui, tout à fait. Le manque de personnel entraîne de la maltraitance, forcément. Et l'absence de formation ou le manque de formation également, oui.
Dernière question. Alors, c'était un des tout premiers projets d'Emmanuel Macron en 2017. Projet complètement avorté. C'était le projet de créer un cinquième risque. En gros, l'assurance maladie pourrait assurer les conséquences de votre dépendance. Mais pour ça, il fallait cotiser. Ça a été abandonné parce qu'il fallait cotiser en plus. Mais ça veut dire aussi qu'on est complètement démunis aujourd'hui. On n'a pas les moyens de la financer, l'aide à la dépendance, en fait. Que ce soit du public ou du privé.
Il va bien falloir parce que en 2050, un Européen sur trois aura plus de 65 ans. Donc c'est un défi qu'on va devoir affronter, que tous les États européens vont devoir affronter. Après, c'est une question de choix politique aussi. C'est ce que nous disait Xavier Fortinon, le président du département des Landes. Les Landes ont choisi de ne jamais accorder des EHPAD aux privés lucratifs. Et donc, ils investissent énormément. C'est des choix politiques. Mais voilà, plus on tarde et plus c'est difficile d'affronter ces choix parce qu'effectivement, ça coûte très cher.
Oui, il ne faut pas procrastiner dans ce domaine. Ça, c'est très important. Hold up sur les vieux. C'est à voir mardi soir à 20h55, documentaire que vous co-réalisez avec votre consoeur Nathalie Mselem. Article aussi à lire aujourd'hui, c'est important.
Voilà, qui est publié aujourd'hui sur le site de la revue 21.
Exactement.
Et qui est consacré à AGV, la filiale de Clariane.
Enquête édifiante à découvrir aujourd'hui. On continuera à parler de ce sujet de la dépendance parce qu'il est fondamental et qu'il sera de plus en plus important. À suivre sur Sud Radio, un tout autre sujet, mais non moins dramatique. Au contraire d'ailleurs, direction la bande de Gaza, Rafah, plus près. précisément à quoi joue, et sans mauvais jeu de mots, l'armée israélienne. Quel est son objectif alors que des centaines de milliers de civils sont massés sur la dernière zone cible d'une offensive? On en parle dans un instant.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, ben c'est une super nouvelle.
Sud Radio, parlons vrai.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Sud Radio Aurillac.
101.
Sud Radio.
La vie claire.
Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût? En ce moment, chez La vie claire, profitez de moins 15% sur tous nos pains bio, dont nos 22 recettes exclusives. Et dès 30 euros d'achat, on vous offre un pain sportif. Alors, ça vaut le goût ou pas?
La vie claire, la bio clairement engagée.
Offre limitée à une personne et par foyer. Voir conditions sur laviclaire.com. Pour votre santé, bougez plus.
7h. Oh. 7h02. Oh. 7h03.
Bonjour, la météo.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Le petit Marseillais fête ses 40 ans. 40 ans de... 40 ans de... 40 ans de... Depuis 40 ans, le petit Marseillais ensoleille votre quotidien avec ses gels douches qui sentent bon la Provence. 92% d'ingrédients d'origine naturelle et des flacons entièrement recyclables. Le petit Marseillais, 40 ans de soleil sous la douche. Et en ce moment, profitez de nos offres anniversaires en magasin. Offre disponible dans les magasins participants.
L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagnée.
Tout est prêt pour votre déménagement, Linda ?
Non, Cerise, j'ai oublié l'assurance habitation. Avec mon budget, je peux pas payer cher et j'ai peur de pas être bien couverte.
Chez Groupama, vous pouvez économiser en moyenne 149 euros sur votre contrat habitation et profiter des mêmes garanties.
Vous savez me parler, Cerise.
Nos conseillers aussi, et ils sont disponibles en agence à moins de 15 minutes de chez vous.
Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Économie moyenne déclarée à garantie équivalente par des clients ayant souscrit en 2022. Étude Ipsos 2023. Plus d'infos sur groupama.fr.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Grâce à votre promo sur le dentifrice Colgate, mon ado a enfin les dents propres.
Ah, tant mieux.
Oui, c'est un vrai progrès. Mais maintenant, vous n'auriez pas une astuce pour le faire sourire? Parce que du coup, on aimerait bien les voir, ses dents.
Rassurez-vous, ça ira mieux avec l'âge. Et du 7 au 18 mai chez Leclerc, profitez de 34% de réduction sur le lot de 3 dentifrices Colgate Total.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc, soit 15,82€ le litre. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Sud Radio, on décrypte le monde.
On décrypte le monde et notamment cette offensive israélienne sur la zone de Rafah, au sud de la bande de Gaza. On en parle avec notre invité, le général François Chauvency. Bonjour mon général.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes consultant géopolitique, rédacteur en chef de la revue Défense de l'Union, IHEDN. Offensive sur Rafah que Washington observe, je cite, avec préoccupation, bien que Washington ne juge pas cette opération militaire majeure. Pourtant, 110 000 personnes, d'après l'ONU, ont fui déjà, des civils en tout cas, la zone de Rafah pour éviter les combats. Première question, mon général, est-ce qu'il y a une offensive de grande ampleur israélienne sur la zone de Rafah?
Alors c'est très difficile à voir. On voit simplement, on constate que les forces israéliennes se mettent en ordre de bataille. Les chars entourent, je dirais, une partie de la zone de Rafah. Des progressions sont vues du côté de l'est de Rafah. Et nous sommes bien dans une phase que moi je considère comme finale. Rafah est le dernier endroit où les unités du Hamas sont encore retranchées. 6 à 8 bataillons, en gros, quelques milliers d'hommes. Et il est certain que Israël ne laissera pas ses combattants islamistes s'installer durablement dans cette zone. Donc, petit à petit, Rafah, à mon avis, sera l'objet d'une progression israélienne, mais pas d'un seul coup, parce que c'est une ville importante avec beaucoup de civils et que le combat est difficile. Donc, ça sera une progression lente, quartier par quartier, et je dirais maison par maison.
Et donc, des combats de nature extrêmement difficiles, comme à chaque fois le combat urbain. Est-ce qu'il faut comprendre, mon général, qu'il n'y a plus ou presque plus de combattants du Hamas dans le reste de la bande de Gaza ?
Alors justement, non, il semblerait bien qu'il y ait encore des poches de résistance ou des poches, je dirais, des zones d'infiltration. Dans une zone telle que Gaza, il est extrêmement difficile d'assurer un contrôle à 100%. Il y a eu des attaques recensées d'ailleurs hier ou avant-hier dans le nord de Gaza par des groupes du Hamas. Et il y a des soldats israéliens qui ont été blessés. Le contrôle ne sera pas à 100%. Mais c'est un petit peu la difficulté de ce type de terrain. Il y a un combat en avant et en arrière, il faut nettoyer et surtout contrôler le terrain, ce qui veut dire mettre beaucoup de soldats dans les zones déjà vérifiées pour s'assurer qu'il n'y ait pas de nouveaux tunnels qu'on aurait oubliés et qu'il n'y ait pas des combattants qui reprennent des armes ou qui se seraient dissimulés.
Et ce qui m'amène à cette question, mon général, c'est la raison pour laquelle je tenais à ce qu'on vous entende ce matin. Est-ce que, militairement parlant, je ne parle pas encore de l'aspect humanitaire qui est une conséquence, est-ce que, militairement parlant, ces objectifs sont crédibles, c'est-à-dire attaquer la dernière zone où le Hamas serait retranché massivement pour l'en déloger? Est-ce que c'est faisable en fait?
Alors militairement et peut-être même politiquement, je vois mal comment le gouvernement Netanyahou ne pourrait pas achever son opération militaire. Politiquement, ça serait une défaite s'il ne le faisait pas. Mm-hmm. Et militairement, c'est laisser une menace persistante. Mm-hmm. Aujourd'hui, quelle est la cible? Enfin, il y a plusieurs objectifs. Un, détruire les unités constituées du Hamas qui existent encore. Deux, mettre la main sur les chefs de ce mouvement terroriste. Trois, libérer les otages israéliens ou au moins récupérer leur corps. Donc, à partir de ces trois objectifs, on voit mal comment militairement cette opération ne serait pas justifiée.
Effectivement, sauf que plusieurs centaines de milliers de civils à qui on a dit d'aller dans le sud vers Rafah se trouvent dans cette zone. En d'autres termes, on leur a dit au début, réfugiez-vous au sud de la bande de Gaza parce qu'on va attaquer le nord. Maintenant qu'on a attaqué, voire rasé le nord, où est-ce qu'ils peuvent aller ces civils?
Alors c'est une bonne remarque, surtout qu'il faut quand même reprendre en considération la géographie de la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est 360 km², c'est 6 à 12 km de large, 40 km de long, entouré de deux pays qui ne veulent pas de réfugiés, Israël et l'Égypte, et par la mer. Résultat, une population en temps de guerre dans ce contexte ne peut pas s'échapper et aller ailleurs que là où on lui dit d'aller. N'oublions pas quand même qu'il y a plus de 2 millions de Gazaouis sur cette bande de terre très étroite. Donc c'est la première fois, je crois, que des armées occidentales ou une armée occidentale est confrontée à un tel dilemme. Comment faire la guerre dans une zone à la fois urbanisée, fortement peuplée, sans mettre en danger une partie de cette population? Donc effectivement, la population bouge par la force des choses. Les Israéliens font ce qu'ils peuvent dans ce domaine-là. Ils envoient des tracts, des émissions radio, ils essaient de donner des zones où les réfugiés ou les déplacés, dans ce cas-là, peuvent se mettre à l'abri, avec tous les risques que cela comporte. Les Israéliens ont acheté, il y a quelques jours, 40 000 tentes pour accueillir en gros 160 000 personnes. Donc ça veut dire aussi préparer des camps d'accueil pour ces déplacés. C'est la grosse difficulté. Et en même temps, assurer la sécurité. Donc on a un vrai sujet militaire, je dirais, presque d'école, oserais-je dire, malheureusement, où effectivement, une armée qui se tient correctement à la guerre, qui a quelques principes, face à une population qui est soumise quand même à la fois à une autorité autoritaire, je dirais, comme
et totalitaire d'ailleurs.
Et puis un terrain extrêmement exigu, où là où il y a des combats, et d'ailleurs le Hamas ne respecte aucune zone de non-combat. Donc voilà, la difficulté est là. Et vous l'avez dit il y a quelques instants, la crise humanitaire est une conséquence. C'est pas la cible, je dirais, de cette opération. On n'est pas là pour finalement, au sens protéger la population. C'est ce dont nous on a été habitués en tant qu'occidentaux. On dit toujours protéger les populations, y compris quand on fait la guerre. Bah malheureusement, cette guerre, comme celle en Ukraine d'ailleurs, montre qu'aujourd'hui ce principe qui est très louable n'est pas toujours applicable, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, notamment dans la bande de Gaza.
Et c'est la raison pour laquelle malheureusement le sang va continuer à couler, y compris du côté des civils qui n'auront pas pu partir. Merci beaucoup pour cet éclairage, mon général François Chauvency, consultant géopolitique, rédacteur en chef de la revue Défense de l'Union, IHEDN. On en reparlera de cette guerre d'ailleurs. À quelles conditions Israël peut présenter cette guerre, en tout cas comme une victoire? C'est une question qu'on pourra aborder plus tard sur Sud Radio et pourquoi pas avec vous, mon général. Restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. À suivre sur Sud Radio, 12 ans de retard, retour en France, à Flamanville. Pourquoi le nouveau réacteur nucléaire sortira non seulement de terre, mais en plus sera mis en service avec autant d'années de retard? On va en parler avec notre invité juste après les informations.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
France 2. Le retour du plus grand show musical au monde, l'Eurovision. Cette année, Slimane portera les couleurs de la France lors de la grande finale de l'Eurovision avec sa chanson « Mon amour ». Ce soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Sud Radio Tarbes.
102.
Sud Radio.
Hé, hey, regarde, la voisine est déjà prête.
Ah ouais? Mais prête pour quoi?
Ben, pour les fortes chaleurs.
Elle a acheté un maillot?
Non, elle a installé des stores.
Ah, bonne idée. Il faudrait qu'on en mette aussi devant nos fenêtres.
Eh oui, les fortes chaleurs vont arriver plus tôt et durer plus longtemps. Alors pour vous protéger, préparez-vous dès maintenant en installant des stores par exemple. Découvrez plus de gestes simples sur vivreaveclachaleur.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Vous êtes étudiante, porteuse de projet ou déjà entrepreneur? Ne ratez pas la 10e édition du Be a Boss Tour, une occasion unique d'échanger entre entrepreneurs, experts et professionnels de l'accompagnement de start-up et de l'entrepreneuriat féminin, et de participer au Be a Boss Awards. Be a Boss Pays de la Loire, le 14 mai à la French Tech Nantes. Programme et inscription gratuites sur bi-a-bo2s.com. Avec Sud Radio, parlons vrai.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de grosses crevettes est à seulement 7,49€.
À ce prix-là, je vais en faire tout un plat.
De quoi vous faire de belles assiettes. D'ailleurs, vous m'en garderez une, hein?
Bien sûr que oui.
Auchan, avec plaisir. 7,49€, le kilo de crevettes entières cuites réfrigérées. Penaïus Vanamei, 25 à 35 pièces au kilo. Élevé en Équateur. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
La recette de veau pour la Pentecôte, c'est très simple. On prend une belle côte de veau savoureuse, choisie par son boucher. On ajoute un week-end prolongé. On fait revenir toute la famille. On les fait mijoter dans l'herbe du jardin le temps de la cuisson. Et une fois qu'ils ont doré au soleil, on peut servir la côte de veau à table, accompagnée d'une bonne tranche de rigolade. Vous allez vous régaler pour la Pentecôte. Ah, et ça marche aussi avec du tendron, du pavé et tous les délicieux morceaux de veau à retrouver sur bravoleveau.com.
Bonjour, je m'appelle Lucie Charnet. Je suis conseillère EDF pour les entreprises à Lyon. Beaucoup de clients me demandent comment se lancer dans la transition énergétique de leur entreprise. Nous parlons ensemble de solutions concrètes comme Suivi Conso, un outil pour comprendre et analyser leur consommation afin de l'optimiser. C'est un premier pas pour entamer la décarbonation de leur activité et réduire leurs factures.
EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Allez, bienvenue sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h, il est 8h32.
Parlons vrai.
Ensuite, on retrouve un nouveau point sur les informations avec Baptiste Berthelin. Bonjour.
Bonjour à tous. Plus que 4 matchs et c'est fini. Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Il l'a officialisé hier soir dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. L'attaquant français va même disputer son dernier match au Parc des Princes demain soir face à Toulouse. On ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine, même si tout semble indiquer que la star des Bleus se dirigera vers le Real Madrid. Une randonnée contre un projet de méga bassine dans le Puy-de-Dôme. Le collectif Bassine Non Merci appelle les opposants à se retrouver ce matin à la gare de Vertaison. Une mobilisation pour dénoncer la création de 2 réserves d'eau artificielle que le collectif qualifie même de gigabassines. Il s'inquiète des effets de ces bassines sur la faune et la flore. Des études d'impact sont en cours. Une réunion privée avant une confrontation sur un plateau télé. Gabriel Attal va recevoir le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, jeudi dans le cadre de la grande consultation sur l'ultra-violence chez les jeunes souhaitée par le Premier ministre. Les deux hommes se retrouveront ensuite le 23 mai pour un débat dans le cadre des élections européennes. C'est tout simplement un record sur une journée. Plus de 11 000 personnes ont été accueillies jeudi au château de Chambord. L'année dernière, à la même période, le site avait accueilli au mieux un peu plus de 9 000 visiteurs sur une journée. Le château de Chambord, qui est le deuxième château le plus visité du pays après Versailles. La France n'a plus gagné depuis 47 ans. Ce soir, c'est la grande finale de l'Eurovision. Et c'est Slimane qui porte le drapeau tricolore cette année avec son titre « Mon amour ». Une édition sous tension. De nouveaux rassemblements pro-palestiniens sont annoncés pour dénoncer la participation de la candidate israélienne. Et puis on revient au foot. Brest ne valide toujours pas sa place en Ligue des Champions. Les Bretons ont fait match nul un partout face à Reims hier soir à domicile en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Notez également le court succès de Nice 1-0 face au Havre. Très bonne journée.
Mais très bonne journée à vous aussi, Baptiste.
La météo Sud Radio.
La météo avec Rémi André. Il fait beau, Rémi.
Ah oui, il fait beau. Là, nous avons vraiment un temps bien ensoleillé, très agréable, avec des températures qui commencent déjà à remonter. On est déjà à 18 degrés à Nice. Nous sommes à 18 degrés également à Listrau, sur la Corse. Puis dans le sud-ouest, 16 degrés sont déjà atteints à Tarbes ainsi qu'à Pau. Des températures qui ont même dépassé les 19 degrés du côté de Castres. Mais là, c'est le vent d'autant qui lui radoucit et même réchauffe les températures. Donc aujourd'hui, de la chaleur, puisque les températures atteindront partout dans l'après-midi plus de 20 degrés. On pourrait même atteindre les 30 degrés dans le sud-ouest et de façon générale les 22 à 27 degrés. Une belle journée qui se terminera malgré tout avec le retour de gros nuages sur l'Aquitaine et les Pyrénées jusqu'à avoir des orages dans la soirée.
Merci beaucoup Rémi André.
Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry.
Bienvenue sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h, il est 8h35. On vous souhaite un agréable samedi matin. À suivre sur Sud Radio, 12 ans de retard au moins et des milliards d'euros de dépassement. L'EPR de Flamanville va finir par entrer en service cet été. C'est le feu vert qui a été donné par l'autorité de sûreté nucléaire en début de semaine. Pourquoi autant de retard et autant de dépassement? Qu'est-ce que ce réacteur va changer? On va en parler dans un instant. Mais avant ça, on salue la France qui travaille.
Entrepreneurs, artisans, commerçants, protégez-vous en cas de perte de votre emploi avec l'association GSC, partenaire de...
Nos artisans ont du talent. Nathalie Schrein-Guirma.
Bonjour Nathalie Schrein-Guirma. Comme chaque samedi, vous nous présentez un métier qui devient de plus en plus rare.
Bonjour à vous, effectivement je vais vous faire découvrir un autre savoir-faire aujourd'hui, mais alors un savoir-faire assez plutôt rare et précieux. On connaît bien la marqueterie de bois et là on va s'intéresser à la marqueterie de paille avec Guillaume Ducato. Merci d'être avec nous Guillaume. Alors vous travaillez cette paille de seigle, la marqueterie de paille, expliquez-nous ce que c'est exactement parce que c'est un art ancestral qui remonte au XVIIe siècle.
Exactement, alors c'est une technique à 400 ans comme vous venez de le dire. Et moi, le but consiste à... La paille vient de Bourgogne et le but, c'est de venir l'écraser, la lisser plutôt, et de venir coller bout à bout ou bord à bord exactement les brins de paille pour dessiner un motif qu'on a soit défini au préalable ou alors c'est libre cours à l'imagination, à l'improvisation, et on vient coller chaque brin les uns à côté des autres. Et ce qui, moi, pour ma part, j'en fais des tableaux et voilà.
Mais alors, à l'époque, c'était plutôt utilisé par tous, hein, les religieux, les marins, les bagnards. Enfin, c'était un peu un artisanat, j'allais dire, c'était un peu le parent pauvre dans un premier temps de la marqueterie de bois. Et puis finalement, à partir des années 20, on a une personne en particulier qui a relancé ce courant en France.
Exactement. C'était à l'époque Art déco et c'était devenu quelque chose de très prisé pour tout ce qui est ornemental, les décors, etc., le mobilier un peu, et c'est retombé en désuétude à la fin de l'époque Art déco, et ça a repris toutes ses lettres de noblesse grâce à Lison de Caunes au début du 21e siècle, et aujourd'hui ça a clairement le vent en poupe, tout le monde en veut, tout le monde s'arrache ce savoir-faire là. Que le matériau est tellement magique, on le retrouve dans tout ce qui est yacht, boutique, de grandes maisons, enfin chez Cartier, Guerlain, tout ça. Et moi, pour ma partie, moi j'en fais des tableaux. Et mon but, c'est de venir d'amener cet artisanat entre guillemets dans les galeries d'art. Et montrer qu'avec un savoir-faire et une technique ancestrale, on peut faire des œuvres d'art.
C'est ça, et quand on voit le résultat, moi je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de Guillaume Ducato. C'est vrai que c'est impressionnant, on voit la quantité de matière qu'il faut déjà pour réaliser ces œuvres d'art, le temps passé dessus, puis après il y a tout ce qui est la création, hein, ça c'est vraiment ce que vous apportez, hein. C'est donc de l'artisanat que vous emmenez dans le monde de l'art à travers justement cette entrée dans les galeries. Combien de temps ça prend pour faire un tableau? En fait, on peut pas vraiment le dire, hein. C'est très long finalement.
Et c'est très très... Alors, c'est une question qu'on me pose régulièrement, c'est très très variable
d'un
tableau à l'autre. Les gens ont tendance à penser que plus c'est petit, moins c'est long. Et en fait, si vous avez un motif compliqué sur une petite surface, ça sera plus long qu'un motif simple sur une grande surface. En fait, il n'y a pas de règle. On ne sait jamais pour combien de temps. Quand je commence un tableau, je ne sais jamais pour combien de temps je vais en avoir. J'ai à peu près des idées avec l'expérience et le recul. Maintenant, je sais à peu près, mais il y a toujours des surprises, etc. Et enfin, le maître mot, c'est la patience et la résilience. Donc,
exactement.
C'est le temps long. Donc, on peut pas, je fais tout à la main, j'ai que demain, les journées font 24 heures. Donc, on peut pas faire 70 tableaux, grands tableaux dans l'année, c'est impossible.
Merci. Merci en tout cas Guillaume Ducato d'avoir pris le temps de nous présenter votre passion, votre métier, mais également votre passion. Merci et belle journée à vous.
Et merci à vous, surtout Nathalie Chan-Guermain. On vous retrouve demain à 13h30 pour un nouveau numéro de C'est ça la France, comme tous les dimanches.
Nos artisans ont du talent. Nathalie Chan-Guermain.
Avec l'association GSC, protection des entrepreneurs, artisans et commerçants en cas de perte d'emploi.
Il est 8h40 sur Sud Radio, on est un tout petit peu en retard, mais pas autant que ce chantier. 12 ans de retard, je le disais. On parle du réacteur nucléaire EPR de Flamanville qui pourra enfin entrer en fonctionnement cet été. On en parle avec notre invité Emmanuel Galichet, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes enseignante, chercheuse en physique nucléaire au Conservatoire National des Arts et Métiers. Je le disais, 12 ans de retard pour l'entrée en service de ce réacteur. Mais ça veut dire que le chantier, en gros, aura duré près de 17 ans. C'est une génération qu'il aura fallu pour construire un réacteur d'un type nouveau en France. Comment ça s'explique une telle durée ?
Parce que effectivement, les équipes ont rencontré énormément de problématiques sur le chantier qui sont différentes. Hein. Le premier point, c'est qu'effectivement, il y avait eu une perte de compétences sur certains métiers, sur certaines techniques. Et donc, il a fallu réapprendre à travailler, à faire des chantiers complexes. Parce que effectivement, un réacteur tel que l'EPR, c'est un grand projet avec énormément de complexité. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que effectivement, au fur et à mesure qu'on a pris du retard, eh bien, on a eu la sûreté, les exigences de sûreté qui ont changé en fur et à mesure du chantier. Donc, il a fallu prendre du temps pour mettre en place les exigences de sûreté qui n'avaient pas été prises en compte au début dans la conception, dans les plans, etc. etc. Donc, vous voyez qu'il y a c'est multiparamétrique finalement, hein, tout ce projet. Et on voit qu'il y a eu plein de problématiques différentes qui ont fait que le planning a dérapé.
Que le planning a dérapé, mais pas seulement le planning, le coût aussi. Est-ce qu'on sait à ce stade combien de milliards d'euros aura coûté ce chantier du réacteur nucléaire EPR de Flamanville ?
Alors bon, moi je ne vais pas rentrer dans les plusieurs instances ont donné des chiffres. Il faut voir qu'en gros, ça sera un peu plus de 10 milliards effectivement pour le chantier.
Alors, je vous pose cette question et elle est importante parce que c'est évidemment un dépassement. On n'avait pas prévu que ça coûte aussi cher. L'État, officiellement, souhaite en faire construire 14 ou EDF plutôt dans les années qui suivent. Est-ce qu'on a les moyens de construire 14 réacteurs nucléaires à 10 milliards d'euros pièce, ou est-ce que, au fur et à mesure qu'on en construira de nouveau, ça coûtera de moins en moins cher?
Eh ben, vous avez exactement raison. Effectivement, c'est ce qu'on appelle l'effet de série dans l'industrie. C'est-à-dire que là, il faut voir l'EPR comme un prototype. Donc peut-être la première fois qu'on le fait, effectivement les coûts ont beaucoup dépassé, et donc on espère, l'industrie nucléaire espère, qu'en faisant plusieurs et en ayant beaucoup appris sur les problématiques sur l'EPR, eh bien on va pouvoir avoir ce qu'on appelle l'EPR2 plus facile à construire. Ils ont toutes les ingénieries ont travaillé pour rendre la construction et les plans beaucoup plus simples. On espère qu'au fur et à mesure qu'on apprenne à travailler, eh bien évidemment, ça va aller plus vite et donc un planning plus rapide, ça veut dire un coût diminué.
Alors, question de néophyte, et j'espère que vous me la pardonnerez, mais qu'est-ce qu'il a de plus, ce réacteur EPR ? Pourquoi c'est si important de partir sur un nouveau modèle ? Après tout, nos bonnes vieilles centrales marchaient très bien, on aurait pu faire le même modèle qu'on savait construire.
Oui, alors, je ne sais pas si au bout de 20 ou 25 ans, on aurait su construire encore même les paliers que nous avons, les réacteurs que nous avons sur le parc, hein, parce que et vous avez eu une perte de compétences. Hein, les anciens sont partis à la retraite et les jeunes n'ont pas eu le temps sûrement de reprendre les vraies compétences, puisque la compétence, c'est l'expérience. Donc, vous voyez, un jeune ne remplace jamais un vieux, c'est ça qu'il faut savoir sur les projets d'une telle complexité. Et donc, aujourd'hui, l'important, c'est entre le parc et les EPR et les EPR2, c'est vraiment des exigences de sûreté beaucoup plus importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de se dire, on essaye de diminuer de manière drastique les probabilités d'accident, eh bien, en plus, sur l'EPR et l'EPR2 et tous les réacteurs d'aujourd'hui à travers la planète qui sont ce qu'on appelle les générations 3, on se dit, l'accident, même si la probabilité est très, 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 très petite, eh ben, peut-être qu'il peut arriver. Et alors, je mets les parades, je construis et je dimensionne les parades de manière à ce que l'accident reste confiné à l'intérieur du site.
Donc, la sûreté de l'EPR, c'est son premier atout par rapport aux autres modèles, c'est ça ?
Oui, complètement.
Et le deuxième, c'est quoi ? C'est la puissance ?
C'est la puissance. On n'est jamais allé aussi haut en puissance sur le parc. Hein. Le dernier palier, le dernier réacteur, c'est 1450 mégawatts. Et là, on est à 1600, un petit peu plus de 1600 mégawatts. Donc, on a vraiment le réacteur le plus puissant en France.
Bon, il devrait entrer en service cet été. C'est ce qu'a en tout cas permis l'autorité de sûreté nucléaire. Est-ce qu'on sait s'il y a un autre chantier et si oui, où il pourrait avoir lieu, pourrait être lancé en France ?
Alors, le prochain, après l'EPR, effectivement, il est déjà projeté, planifié, il sera à Penly. Ce sera la construction de deux EPR2.
Eh bien, écoutez, j'espère qu'on pourra en reparler avec vous. Et si possible, avant 12 ans, tant qu'à faire, au moins on aura gagné en expérience. Merci beaucoup pour cet éclairage, Emmanuelle Galichet, enseignante chercheuse en physique nucléaire au Conservatoire National des Arts et Métiers. Il est 8h46 sur Sud Radio. Allez, restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants. Sud Radio, la radio du rugby, mais pas que. L'actualité sportive, c'est dans un instant avec le journal de Morgan Thomas.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Le petit Marseillais fête ses 40 ans. 40 ans de... 40 ans de... 40 ans de... Depuis 40 ans, le petit Marseillais ensoleille votre quotidien avec ses gels douches qui sentent bon la Provence. 92% d'ingrédients d'origine naturelle et des flacons entièrement recyclables. Le petit Marseillais, 40 ans de soleil sous la douche. Et en ce moment, profitez de nos offres anniversaires en magasin. Offre disponible dans les magasins participants.
Sankook. Alors nous, on voudrait une cuisine
avec des tiroirs qui font
chut. Mais pas trop quand même.
Un bruit silencieux, quoi.
Voilà.
Avec Sankook, tout est clair pour votre cuisine, même si vous ne l'êtes pas toujours. Voilà pourquoi, dès le premier rendez-vous, vous obtenez un plan, des vues 3D et le devis détaillé de votre cuisine. Sankook, des cuisinistes pas comme les autres. Et merci à tous ceux qui ont élu Sankook meilleure enseigne de cuisine 2024 pour sa qualité de service.
Sud Radio Biarritz.
103.9.
Sud Radio.
Eh oh, enlevez votre casque de vélo, vous êtes dans une piscine là.
Oui, mais en ce moment avec Esso, on peut gagner un vélo électrique par jour. Alors faut se tenir prêt.
Et comment on participe ?
Ah bah allez sur ecomobilité-jeesso.fr.
Ok, merci.
Conditions sur ecomobilité-jeesso.fr du 1er mai au 31 août 2024. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Esso.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
1664 Blanc présente.
À la French.
À la French, c'est quoi ?
C'est quoi ? Une bière française.
Cette bouteille bleue,
très très fraîche.
Cette terrasse, ensoleillée. 1664, blanc.
Ce serveur qui virevolte.
De table en table.
Ce verre élégant.
Note d'agrumes.
1664, blanc.
C'est ça, à la French. 1664, blanc. À la French. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai.
France 2.
Le retour du plus grand show musical au monde, l'Eurovision. Cette année, Slimane portera les couleurs de la France lors de la grande finale de l'Eurovision avec sa chanson « Mon amour ». Ce soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Maxouti.com, un max d'outils à prix mini, présente.
Sud Radio, le journal des sports.
À la une de l'actualité sportive ce matin, Morgane Thomas.
Un au revoir à Mbappé, le joueur a officialisé son départ. Le bilan de Kylian au PSG, c'est à suivre. Il faudra attendre demain pour retrouver la Ligue 1 tout de même et en Ligue 2, Auxerre champion. Et Saint-Etienne fait grise mine.
Mais d'abord, un au revoir, vous le disiez, celui de Kylian Mbappé au PSG. Il a officialisé son départ hier.
Il jouera son dernier match parisien demain face à Toulouse. Et s'il n'a pas acté son arrivée au Real Madrid, il a voulu rendre hommage au PSG et à ses supporters. On l'écoute.
Salut à tous, c'est Kylian. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France. L'un des meilleurs du monde. C'est difficile et bien sûr, il y a des gens que je voudrais remercier par-dessus tout, c'est les supporters. Je sais que je suis pas le joueur le plus démonstratif, j'ai pas toujours été à la hauteur de l'amour que vous m'avez donné pendant 7 ans, mais j'ai jamais voulu tricher, j'ai toujours voulu être performant. Merci à tous, j'espère qu'on va finir cette année avec un dernier trophée. Ici c'est Paris et au revoir.
Au revoir Kiki, les performances de Kylian Mbappé, on en parle tout de suite avec Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business.
En cette saison, ça aurait été plus de 300 matchs joués, plus de 250 buts marqués, 6 titres de champion de France, 3 coupes de France, peut-être une quatrième, 3 trophées de champion, 2 coupes de la Ligue. C'est surtout 2 demi-finales et une finale de Ligue des Champions, ce qui permet au club de rentrer dans le top 5 de l'indice UEFA et cette année de récupérer 125 millions d'euros de redistribution. C'est aussi un top 5 en termes de fanbase, plus de 250 millions de followers et une valorisation à 4,2 milliards d'euros, un exploit jamais réalisé en France. C'est aussi 400 millions d'euros de contrats sponsoring qui seront toujours là malgré le départ de Mbappé puisque ce sont des contrats pluriannuels. Bref, le club a désormais de quoi continuer à rêver plus grand et donc de dire merci Kylian et bonne continuation.
C'est clair, bilan impressionnant. Merci Vincent Chaudel. En Ligue 1 et dans l'ouverture de l'avant-dernière journée hier, Brest tenu en échec par Reims, un partout. Les Bretons, toujours troisième, sont sous la menace de Lille. Nice, de son côté, a validé son ticket pour l'Europe après sa victoire contre le Havre, 1-0. Rendez-vous demain pour le multiplex, c'est à 21h. Lille joue à Nantes, Metz 16e veut battre Strasbourg. Montpellier reçoit le 2e Monaco, Lorient va à Marseille, Rennes accueille Lens. Et on en parlait, Toulouse joue au Parc des Princes contre le PSG.
Effectivement, et ce sera le dernier match au parc de Kylian Mbappé. C'est ce qu'il disait, justement. Allez, le multiplex de Ligue 2 maintenant, c'est toujours du football. C'était hier, Morgane.
Et Auxerre, sacré champion, malgré le match nul sur la pelouse d'Amiens. Saint-Etienne, tenu en échec par Rodez, 1-1. Les Stéphanois repassent donc derrière Angers. Désolé Jean-Marie, après la victoire dans les dernières minutes sur Annecy, 2-1. Ajaccio s'incline contre Grenoble sur le même score. Bastia met fin au rêve de Pau, 2-1. Pas de plaisir. Off pour les Bernais. Valenciennes l'emporte sur Quevilly mais reste lanterne rouge. Laval s'est incliné contre 3-2-1. En avant Guingamp est logiquement tombé au Paris FC. Solide quatrième de Ligue 2. Caen voit les barrages s'éloigner après son nul 2-2 contre Dunkerque. Et puis déroute de Bordeaux à Concarneau 4-2. Les Girondins qui ont joué à 10 contre 11 pendant une heure.
Oui, décidément c'est difficile. Allez, on passe au top 14 maintenant. Là c'est du rugby. Sud Radio, la radio du rugby qui célèbre l'ouverture de la 23e journée.
Et ce soir à 21h, Bordeaux-Bègles 3e reçoit La Rochelle 5e. Le déplacement à Bordeaux est devenu une habitude pour le public rochelais. Et pour le pilier de l'UBB, la pression est très grande.
La Rochelle, on a perdu quasiment 80% de matchs à la maison ou là-bas. Il faut tourner les pages. Il faut dire qu'on est prêt pour l'affronter et faire de très très bons matchs.
Coup d'envoi à 21h. Avant cela, à 15h, Perpignan reçoit Clermont. À 17h, le Racing reçoit Bayonne. Castres, Montpellier, Toulon, Lyon et Pau, Oyonnax.
Effectivement. Et en Pro D2, Montauban qui l'a emporté hier sur Mont-de-Marsan.
Vainqueur d'un match décisif sur sa pelouse, Montauban peut encore rêver au maintien. Julien Gauthier, entraîneur de l'USM.
On ne devait pas se rater, on ne s'est pas raté. Les joueurs ont fait preuve d'engagement, de solidarité, d'une belle intelligence tactique sur la gestion de la première mi-temps. Quelques déchets, bien sûr, mais voilà, on a fait le taf. Maintenant, on a un match à préparer, on a un match salvateur à aller chercher à Aurillac. Il faut venir nous soutenir à Aurillac, on aura besoin de tout le monde. On est vivant.
Ils sont coriaces du côté de Sapiac.
et vivant. Et en bref, et en cyclisme, 8e étape du Tour d'Italie, étape courte mais exigeante tout à l'heure, c'est la première étape de montagne du Giro. Hier, Pogacar a remporté le contre-la-montre devant Filippo Ganna, c'était impressionnant. Et puis top départ du sprint sur le Grand Prix de France de MotoGP, c'est à 15h tout à l'heure.
Exactement, merci beaucoup Morgane Thomas. Tiens, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ces adieux presque présidentiels de Kylian Mbappé qui s'est filmé hier dans une allocution? Est-ce que c'est un joueur qui va manquer au championnat de France de football, par exemple? Est-ce qu'il est populaire ou pas auprès de vous? Tiens, pourquoi pas? Vous pouvez nous laisser vos commentaires sur le Twitter de Sud Radio. On essaiera de les lire à l'antenne sur Sud Radio. Allez, à suivre. Il est 8h55 précisément. Un hommage du monde de la justice aux pionniers de la lutte anticorruption. Le juge Renaud Van Ruymbeek nous a quittés hier. On l'a appris par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Renaud Van Ruymbeek, c'était l'affaire Urba qui a mis fin aux années socialistes de François Mitterrand. C'était aussi l'affaire Elf, c'était les frégates de Taïwan, des affaires les plus fracassantes qui ont défrayé la chronique, le moment où les hommes politiques de premier plan ont commencé à craindre le pouvoir judiciaire. Hommage au juge Renaud Van Ruymbeek d'un confrère dans quelques minutes. C'est un magistrat honoraire, une vraie voix Sud Radio. Philippe Bilger sera notre invité juste après le journal de 9h. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
J'ai fait des étés de génie.
Chérie, toi, t'es encore allé chez Jiffy?
Bah oui, je pouvais pas manquer leur super promotion jardinage. Les 3 sacs de terreau 50 litres à seulement 10 euros. À bon prix, on va rempoter.
10 euros les 3 sacs de terreau 50 litres?
Ah oui, ils ont un large choix de cache pot 10 litres à seulement 1,99€.
Waouh!
En ce moment, chez Jiffy, les cache pot 10 litres sont à seulement 1,99€. Et les 3 sacs de terreau universel 50 litres sont à seulement 10 euros.
Au bon prix, Jiffy, on plante tout.
Offre sur le terreau, valable jusqu'au 15 mai.
J'ai fait des étés de génie.
Ouvert même le dimanche.
C'est parti pour les économies avec Monsieur Bricolage. Aujourd'hui, avec votre carte Monsieur Bricolage, recevez 15 euros en bon d'achat sur tout le magasin, tous les 100 euros d'achat.
Vive les économies!
Mais attention, aujourd'hui seulement.
Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul.
Conditions et magasins participants sur monsieurbricolage.fr.
7h. Oh. 7h02. Oh. 7h03.
Bonjour, la météo.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de tomates rondes en grappe est à seulement 1,39€.
À ce prix-là, je me vois déjà avec mon assiette de tomates mozzarella avec un filet d'huile d'olive.
Mmh, et moi donc. Et vous savez quoi? Elles sont même origine France.
Elles ont vraiment tout pour elles, ces tomates.
C'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,39€, le kilo de tomates rondes en grappe. Origine France, catégorie 1. Valable dans vos magasins Auchan participants.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare. Merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
La recette de veau pour la Pentecôte, c'est très simple. On prend une belle côte de veau savoureuse, choisie par son boucher. On ajoute un week-end prolongé, on fait revenir toute la famille, on les fait mijoter dans l'herbe du jardin le temps de la cuisson. Et une fois qu'ils ont doré au soleil, on peut servir la côte de veau à table, accompagnée d'une bonne tranche de rigolade. Vous allez vous régaler pour la Pentecôte. Ah, et ça marche aussi avec du tendron, du pavé et tous les délicieux morceaux de veau à retrouver sur bravoleveau.com.
L'horoscope Sud Radio.
Bonjour Bénédicte.
Bonjour à tous, nous sommes le samedi 11 mai.
Bélier, vous trouverez la façon d'aborder les dialogues qui faciliteront bien des choses avec votre entourage. Vous aurez un grand désir de liberté.
Taureau, votre foi en vous vous apporte un optimisme renouvelé. C'est le jour opportun pour entamer des négociations.
Gémeaux, c'est une bonne journée à partager en couple ou avec des amis pour entretenir votre vie sociale. Tout le monde sera plus réceptif.
Cancer, chassez vos craintes inutiles, ce n'est pas le moment de vous lancer dans les grandes réflexions. Prenez du repos, la nuit porte conseil.
Lion, évitez les discussions houleuses qui vous vident de votre énergie. Vous y gagnerez sûrement.
Méditez, vous ressourcerez positivement.
Vierge, tâchez de conserver votre sang-froid. C'est en passant par la case raison
que vous parviendrez le mieux à réaliser vos ambitions. Balance, vos ressources émotionnelles vous aident. La compréhension, la fraternité et la tolérance vous permettent tous les espoirs. Scorpion, la vie amicale est en relief. C'est en clarifiant les échanges et en jouant franc jeu que vous réussirez le mieux à convaincre et à rassurer. Sagittaire, vous prenez des décisions importantes. Ce qui se passera aujourd'hui marquera la tendance du prochain cycle. Capricorne, la passion est au rendez-vous. Regardez bien autour de vous, certaines personnes gagnent à être connues. Verseau, vous suscitez de l'embarras par vos questions trop directes au goût de certaines personnes proches de vous. Poisson, vous voici doté d'une vue d'ensemble plus claire sur votre activité. Vous gérez mieux vos priorités. La confiance revient dans le cercle familial.
Eh bien, c'est déjà ça. Merci Bénédicte. Allez, c'est un beau samedi qui se lève sur la France. Il fait beau à peu près partout. Profitez-en les amis. Il est tout pile 9h.